Ah mais il y a 2 jours c'était trop drôle parce qu'on était en alerte orange orage et il y avait un vent de malade et les gens d'ici sont pas habitués. Et genre du coup avec les immeubles ça fait un peu ça fait couloir quoi. Il y avait plein de trucs qui tombaient, il y avait des gosses qui faisaient enfin, c'était l'apocalypse quoi, vraiment, c'était marrant.
France Inter, chacun sa route.
C'est un voyage inattendu, de ceux qui chamboulent, qui façonnent, qui bouleversent. C'est un voyage dans les collines du Rwanda, celle aussi du Burundi, celle enfin de la Bourgogne. Un voyage social qui va emmener notre invité, couronne sur la tête, dans 1000 hôtels. Notre invitée est comédienne, vous pouvez la voir notamment dans la série Tropique Criminelle. Elle est aussi réalisatrice, Rwanda du chaos au miracle en 2014, femme du Rwanda en 2018. Elle est couronnée Miss France en 2000, après avoir été élue Miss Bourgogne. Elle est une amoureuse de basket, au parcours, vous le comprenez déjà, singulier. Et elle a choisi d'ouvrir cette heure ensemble avec un extrait d'un livre de l'auteur Dany Laferrière.
Élodie Font. Chacun sa route sur France Inter.
Ma sœur est encore plus secrète que ma mère. À la voir toujours souriante, on n'imaginerait pas qu'elle vit dans un pays ravagé par une dictature qui ressemble à un cyclone. Elle me raconte sa vie quotidienne au travail où on la traite de snob parce qu'elle se fait un devoir d'acheter un roman dès qu'elle reçoit son salaire et qu'elle se met du parfum pour venir au bureau. Plus elle traite les gens avec respect, plus ils semblent remonter contre elle. Comme si elle leur rappelait cette chose précieuse perdue en chemin, le respect de soi. Ma sœur parle tranquillement, sans me regarder. On dirait une petite fille oubliée par ses parents dans la forêt noire et qui se demande combien de temps cela prendra avant qu'elle ne rejoigne la meute. De retour à la maison, elle trouve sa mère assise sur la galerie, silencieuse et triste. Ma mère qui fut si gaie. Évidemment, je m'occupe des dépenses de la vie courante, mais c'est ma sœur qui fait face au quotidien. C'est elle qui voit l'état de santé de ma mère se détériorer. C'est elle qui subit ses plongées. J'ai peur qu'un jour, je sois trop vidée moi-même pour aller la chercher au fond du puits. Elle me regarde cette fois, et j'ai vu alors mes années d'absence sur son visage. Nous sommes restés un moment sans rien dire, puis lentement, un sourire se met à fleurir. Le nuage noir est passé.
Extrait de l'énigme du retour de Dany Laferrière. Bonjour Sonia Roland.
Bonjour. Ah, c'est pas facile de lire.
On vous fait démarrer fort.
Ouais, fort. Et en même temps, c'est moi qui ai choisi cet extrait. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas relu, ce livre. Et c'est vrai qu'il évoque toujours chez moi, il va me cueillir à un endroit qui révèle des douleurs passées, une nostalgie, cette fameuse drogue dure, comme il l'appelle souvent, Dany Laferrière, et parfois une douce tristesse, en fait.
Tout le livre ou ce passage-là particulièrement? Pourquoi ce passage-là?
Ce passage-là, en fait, résume finalement très bien ce livre, ce retour d'un exil long, en fait, très loin de sa mère, sa sœur, cette prise de conscience de l'absence en fait à travers le regard de l'autre, donc et puis surtout de ceux qu'il aime et à qui il a manqué et qui résume parfaitement le livre en fait. C'est un tout petit passage. Il y en avait plein d'autres que j'aimais, mais celui-ci, moi, je trouvais qu'il résumait parfaitement le livre.
Voilà. L'exil long, évidemment, vous connaissez,
oui.
Vous l'avez vous-même expérimenté. L'énigme du retour, est-ce que vous avez déjà pensé retourner vivre au quotidien au Rwanda où vous êtes né et où vous avez grandi une partie de votre enfance?
Bah, en fait, oui et non, en fait, parce que moi, je me sens comme une grande voyageuse. Je suis née au Rwanda, une partie de moi est encore là-bas. Il suffit de fermer les yeux, j'y suis, en fait. Et j'y retourne très souvent, 2-3 fois par an, quand même. Pour une exilée, c'est quand même incroyable. mais en fait, je fais des va-et-vient comme, euh, comme on fait des va-et-vient. Parce que, bon, je suis métisse, j'ai un père, il n'est plus, mais j'ai un père français, une mère rwandaise, et c'est comme si je faisais des va-et-vient entre mon père et ma mère, quoi. Parfois, on aime dialoguer avec son père, parfois, on aime avoir son moment avec sa mère. C'est un peu ça, quoi, je fais des va-et-vient.
Et si on ferme les yeux toutes les deux, est-ce que vous pouvez me décrire à quoi ça ressemble ?
Moi, je dirais qu'on est dans un taxi, certainement, en train de visiter la ville. Et je pense que vous et moi, on est toujours stupéfaites de la beauté de ce pays, de la beauté de la résilience des gens et leur...
Il y a un son où on se dit, tiens, on est au Rwanda, quand on y arrive, ou quand on y est, d'ailleurs.
Il y a des sons... Bon, déjà les voitures, parce que c'est une ville qui bouge beaucoup. Kigali, par exemple, la capitale, c'est une ville qui bouge beaucoup. Maintenant, quand on sort de Kigali et qu'on va dans les hauteurs, on va entendre un passant siffler, des femmes discuter qui rentrent chez elles. On va avoir des paysannes avec leur bébé sur le dos et avec les outils de travail rentrer à la maison et discuter, rire, parce que les Rwandais aiment rire. Malgré tout ce qu'ils ont vécu et voilà, c'est des sons qui sont très joyeux. En fait, j'ai pas de sons tristes, j'ai des sons que joyeux.
Et tout de suite, vous vous dites, en tout cas, j'y suis. Quand vous entendez tout ça,
ah oui.
J'y suis.
Quand oui, j'y suis.
Et ça, c'est assez fabuleux quand même.
Ouais.
Parce que je pense qu'il y a les sons, les odeurs.
Il y a le bruit, mais il y a l'odeur aussi. Ouais. Il y a le parfum. Moi, il y a un parfum qui me revient toujours quand je descends de l'avion et que j'arrive sur le tarmac. Il y a ce parfum de la terre rouge, la terre argileuse, qui vous saisit comme ça, parce que c'est un pays très humide, en fait, hein, équatorial. Et ça vous saisit comme ça, et ça, je me replonge dans mes souvenirs d'enfance, où je courais, moi, pieds nus, justement, sur cette terre argileuse, que je touchais, que j'étais toujours sale, parce que j'adorais être dans le jardin, pieds nus, et je rentrais toujours, les mains pleines de terre, et c'est ce parfum, cette odeur, qui parfois me manque, oui. Ça me manque, oui.
Et quand vous pensez au Rwanda, là, par exemple, ce que vous nous décrivez, c'est le Rwanda de votre enfance ou c'est le Rwanda d'aujourd'hui quand vous y retournez assez régulièrement ?
Je crois que mon enfance est toujours là-bas et je crois qu'il y a une part de mon enfance qui est toujours en moi et qui donc se réveille au moment où j'arrive au Rwanda. Moi, je suis la petite fille du pays. On me décrit comme ça là-bas. Donc, je resterai toujours une enfant malgré l'âge. Je l'espère d'ailleurs.
C'est chouette qu'il vous voit comme ça là-bas, oui. Parce que parfois, quand on est exilé, mm-hmm. Quand on arrive ailleurs, on n'est pas forcément accueilli comme chez soi, mm. Et quand on revient chez soi, on n'est pas forcément accueilli non plus comme chez soi.
On n'est jamais vraiment chez soi et en même temps toujours chez soi. C'est toute la contradiction finalement du brassage culturel qui est le mien et toute la contradiction et la beauté finalement de ce métissage quoi. On est à la fois chez nous et pas vraiment et en même temps on est toujours bien où qu'on soit. Quel que soit l'endroit où on est toujours bien. Moi, il n'y a pas un endroit où je me sens pas bien, sauf si je suis entourée de gens qui dégagent une énergie négative. Mais sinon, je suis toujours bien.
Vous y retournez donc régulièrement au Rwanda, notamment avec votre association Maisha Africa, mmh. Qui est une association que vous avez co-créée mmh. dès votre élection comme Miss France, avec votre mère et une trentaine de bénévoles. Mmh. Et c'est une, je vais lire ce qu'il y a sur votre site. Le site c'est maisha-africa.org. C'est une association apolitique dont l'objectif est la reconstruction matérielle, sociale et psychologique des enfants d'Afrique et en particulier du Rwanda, mmh. ainsi que le financement de projets d'insertion et de scolarisation. Mmh. Et puis, vous y avez tourné plusieurs fois au Rwanda pour les documentaires Rwanda du chaos au miracle en 2014 et Femmes du Rwanda en 2018. Oui. Donc, vous y retournez effectivement assez souvent. Est-ce que vous y retournez en famille avec vos enfants aussi ?
J'y suis retournée avec mes enfants. Et alors, vous allez peut-être rigoler, mais ma nourrice... celle qui s'est occupée de moi toute petite et celle qui s'occupe de mes enfants aujourd'hui. J'ai gardé le lien. Bon, vous savez, les nourrices chez nous, elles font partie de la famille. Hein. Même la nounou de mes enfants aujourd'hui, moi, je la compte parmi les membres de ma famille. Mais on a un lien très spécial. Et du coup, ce qui est formidable, c'est que c'est elle qui va transmettre les valeurs du Rwanda à ma mère, ma nounou, Françoise, elle s'appelle Françoise, et cette valeur de transmission qui est très très forte au Rwanda est très, comment dire, encore très présente. Elle est pour moi essentielle pour que mes enfants grandissent en sachant d'où ils viennent aussi.
Donc c'est transmettre la mémoire de la terre en passant par des intermédiaires.
Ouais, en passant par des intermédiaires parce que je suis incapable d'avoir une attention réelle de mes enfants. Je pense que les enfants non, mais ouais, parce que en fait les enfants, qu'on le veuille ou non, les parents, on est toujours considérés comme des, comme ceux qui savent pas. Eux ils savent tout. Enfin on a été pareil. Hein. Enfin moi j'ai été ado, j'ai une ado qui a 13 ans et quoi que je lui dise, elle me regarde comme ça et on sent que l'attention va durer 2 minutes quoi. Mais quand c'est ma mère qui lui parle avec son autorité naturelle, bon là elle se concentre.
Vous dites d'ailleurs vous-même, de toute façon, lorsque l'on a une mère africaine, c'est difficile de perdre sa culture.
C'est vrai, c'est très difficile. La mère est la garante de la transmission culturelle, l'héritage culturel. En tout cas, ma mère, faut dire qu'elle a fait un gros travail. Alors très récemment, malheureusement, elle a eu à subir un AVC et après cette longue traversée de la reconstruction à la fois physique et psychique aussi, parce que on y perd beaucoup, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas certaine d'avoir tout transmis. Donc elle a travaillé avec une amie à elle secrètement et elle a écrit un bouquin, ses mémoires, qu'elle a édité en 2 exemplaires pour mon frère et moi. Et elle m'a dit, voilà, au moins là, je suis certaine que si je dois partir, vous aurez toute mon histoire et celle de tes ancêtres. Et ça, c'est essentiel dans la reconstruction, par exemple, du Rwanda. C'est quelque chose que j'ai noté. Cette transmission, si elle n'avait pas existé pour les exilés qui sont revenus reconstruire ce pays et retrouver leur identité, eh bien, ils étaient les garants, justement, d'une histoire. C'est comme s'ils avaient maintenu dans un écrin toute la richesse de l'histoire des Rwandais avant la colonisation. Et donc, en ramenant tout ça et en le remettant en lumière, en remettant en lumière cette histoire, ils ont permis à la population de retrouver leur identité. Et ça, c'est formidable, parce que pendant des années, depuis l'indépendance, les Rwandais étaient sous l'égide d'une histoire construite par la colonisation. Et donc, ils étaient perdus, quoi, déracinés. Ils erraient, en fait. Et finalement, quand il y a eu ce grand retour des exilés, hein, des années 50, 70, eh bien, ce retour de l'histoire a permis aux Rwandais de retrouver leur identité.
Elle fait partie de ces voix, justement, qui permettent aux Rwandais et aux Ougandais de retrouver leur identité. Sonia Roland, je vous propose que l'on écoute ensemble Teta Diana, Nonne Denjo. Vous écoutez Chacun sa route sur France Inter.
Azongera, nejo, nejo, ayo ayo nejo, azongera, nejo.
chacun sa route et nous nous glissons aujourd'hui dans les pas singuliers de Sonia Roland. Vous êtes née et vous avez grandi au Rwanda, mais déjà quelques années avant 1994, vous êtes déracinée une première fois. Je sais que vous avez des souvenirs très heureux, on le disait, de votre enfance au Rwanda. Votre père est français, votre mère est rwandaise, Tutsi. C'était comment d'avoir une double culture quand vous étiez enfant ?
Alors, j'étais pas tout à fait certaine de saisir tout. Mais ce que je savais, c'est que j'étais parfaitement libre comme enfant. J'étais une enfant libre, en fait. Alors, c'est drôle parce que mon père, qui même était blanc ou paraissait plus français que ma mère, était vraiment celui qui était le plus intégré, finalement. Parce que le dimanche, qui était le seul jour où il travaillait pas, et encore, il nous emmenait, mon frère et moi, faire un brunch dans des quartiers populaires. Donc on s'asseyait par terre, enfin sur des petits tabourets, et puis on mangeait avec les mains et tout ça. Et il avait besoin de sentir qu'il... que lui-même, finalement, faisait partie de cette grande intégration et puis il voulait pas casser le lien avec ma culture rwandaise. Et maman, en fait, elle avait à cœur de nous faire comprendre ce qu'était la France. C'est très, très bizarre. Les rôles se sont inversés, en fait. Mon père, qui était l'Africain, d'ailleurs on l'appelait le tonton d'Afrique, hein, mes cousins l'ont toujours appelé l'oncle d'Afrique, c'était l'aventurier, c'était Indiana Jones, quoi, pour eux, dans leur esprit. Et en fait, ma mère, c'était l'intellectuelle, la femme qui adorait les bouquins. Mon père était imprimeur, lui il fabriquait des bouquins, il adorait lire, mais ma mère les lisait et ma mère corrigeait les livres. Et donc du coup, ça faisait un duo assez étonnant aux antipodes tous les deux, parce que mon père, par exemple, était anarchiste, lui, il était toujours en colère, il y a toujours quelque chose qui n'allait pas, et en même temps, hyper généreux, il donnait tout son temps à tout le monde. Et maman, elle, c'était plutôt une intellectuelle de gauche, mais plutôt... comment dire ? Pragmatique.
Il y avait un métissage des personnalités aussi.
Ouais.
Et
ça s'engueulait souvent à table, hein. Ils n'étaient pas toujours d'accord.
J'imagine. Vous aviez la double nationalité?
J'avais la double nationalité depuis ma naissance, en fait, oui. Et c'est ce grâce à quoi on a pu arriver en France de manière plutôt confortable. Parce que l'exil qui a été le mien, ça a été un exil confortable. Dans la mesure où j'arrivais en France, accueillie par ma grand-mère en Bourgogne, ma grand-mère paternelle. Et puis, je ne connaissais pas grand-chose de la France.
Il y a eu deux exils.
Oui.
Un premier, donc, quand vous aviez moins de 10 ans,
oui.
Vous êtes partie une première fois du Rwanda,
oui.
Pour aller une première fois en Bourgogne.
Ouais. Et dans des conditions assez hallucinantes. On a vécu dans un hameau de 400 habitants. J'allais dans une école à classe unique avec mon frère. Il fallait partager les journées avec lui dans la même classe. C'était quand même assez étrange. À la Vineuse, dans un tout petit village. Et puis, j'ai découvert la France rurale, quoi. La France des grands paysages, avec une grand-mère qui allait chercher les poules de ses œufs, les œufs de ses poules, qui allait
les
chercher
poules de ses œufs, peut-être.
Les poules de ses œufs. Qui allait chercher les œufs de ses poules, allait chercher aussi le lait caillé chez madame Chénard à côté. Enfin, donc moi j'ai connu vraiment la France profonde. Et puis après, on a rejoint mon père en 92 parce que lui de 90 à 92 a déménagé son imprimerie au Burundi. Et durant
parce
ce temps-là...
Parce que vous étiez partie du Rwanda, voilà. Donc, en 90. Parce que déjà, c'était compliqué. La situation était déjà compliquée.
Voilà, la situation politique était branlante. Enfin, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et mes parents ont décidé de partir. Ma mère sentait que ça n'allait pas. Et papa, on lui manquait, hein. Il décide... Parce que ma mère était contente. Elle avait trouvé du travail à l'époque. Souvent amenée, d'ailleurs, par le maire du petit village à Cluny. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de locomotion à l'époque. Et puis moi, j'ai découvert encore une fois la France. On se baignait, mon frère et moi, je me souviens, parce qu'elle avait une petite maison très mignonne, hein, qui surplombait toutes les collines de la Saône-et-Loire. Mais on se baignait devant la toute petite télé, vous savez, avec des touches là, et dans une espèce de baignoire en métal. Enfin, c'est vraiment un décor.
Justement, le décor. Votre mère, voici comment elle le décrit.
Nous sommes venus à Cluny parce que mes beaux-parents étaient déjà dans la région clunoise depuis longtemps. Quand on venait en vacances, on venait toujours en Bourgogne. Et donc, je m'y suis plu parce que il y a tout un tour. Il y a la famille qui est formidable, la famille de mon mari, mais il y a aussi le relief qui ressemble au Rwanda. Et puis les gens sont très très sympathiques.
Vous le connaissez par cœur l'extrait?
Je le connais par cœur parce que c'est exactement ce qu'elle dit à tout le monde. C'est-à-dire que la Saône-et-Loire, pour elle, ressemble aux collines du Rwanda. Le pays des mille collines. Le Rwanda, on l'appelle comme ça, le pays des mille collines. Et quand elle est arrivée en Bourgogne, ça a été une révélation. Elle s'est dit... Et en fait, elle a, quand on a décidé de repartir chez mon père en 92, donc au Burundi, et rejoindre mon père, ça n'a pas été simple pour elle, parce qu'elle venait vraiment de trouver ses marques. Même avec ma grand-mère, on vivait avec elle, mais elle avait trouvé ses marques. Et arrivée en 92 au Burundi, ben moi j'étais heureuse parce que je retrouvais finalement ce que j'avais un peu perdu au Rwanda, c'est-à-dire déjà l'école cosmopolite. C'est une école où il y avait toutes les nationalités, il y avait le beau temps aussi, parce que finalement l'hiver en Bourgogne c'était pas facile hein, pour une gamine qui avait grandi au soleil. Ouais, au soleil c'était pas simple, mais je renouais surtout avec mon identité africaine, disons, et mes mamans avaient un doute que ça reste dans cet état, et donc elles sentaient quand même, moi je sentais une défiance, presque une impatience de rentrer en France, parce que je sentais quand même qu'elle n'était pas sécurisée d'être au Burundi. Même si les choses se passaient très bien, elle avait un café littéraire au centre culturel français, elle faisait de l'import-export, il y avait des choses qui se passaient. Bon, tout avait repris, mais on sentait quand même que ça n'allait pas durer.
Ouais. Et puis en 94, le cauchemar évidemment que vit, je dis évidemment, peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutez ne le connaissent pas, mais le génocide de Tutsi par centaines de milliers au Rwanda d'abord, au Burundi ensuite. Imaginez que c'est un peu comme, c'est la France et la Belgique, c'est juste à côté.
Oui. C'est des pays frontaliers hein.
Qui ont racines en commun.
Voilà, exactement. La langue, oui, beaucoup de choses en commun puisque c'était un royaume. Le Rwanda et le Burundi étaient un royaume avant la colonisation et avant les découpages de territoire. Hein. Mais donc ils partagent les mêmes cultures, disons.
Et vous devez partir de nouveau. Mmh. Est-ce que vous vous rappelez des mots qu'échangeaient vos parents sur partir, rester, sur cette précipitation de l'exil, c'est maintenant qu'il faut le faire?
En fait, je me souviens plus du silence que des mots, parce que dans une situation d'exil, surtout d'urgence... On repère plus l'angoisse dans le regard de ses parents, surtout celui de ma mère. Mon père, c'était quelqu'un qui était très concentré sur ce qu'il fallait faire pour nous envoyer en France, parce que le problème, c'est que lui, c'était un travailleur privé, donc il ne bénéficiait pas de l'accès au... Vous savez, au statut de... Comment on appelle ça déjà ?
Ils aidaient les fonctionnaires français sur place en les rapatriant.
Voilà.
Beaucoup plus
le rapatriement des Français n'a pas été ouvert à mon père tout de suite. Lui, il était travailleur privé, la coopération française, voilà. Et du coup, il a fallu qu'il trouve d'autres solutions pour nous envoyer en France. Ce qui a été vraiment un échec vis-à-vis de son identité française. Lui, il l'a vécu comme une trahison. Vraiment, il l'a très mal... Je pense qu'il a très mal vécu jusqu'à la fin de sa vie. Et du coup, quand il a trouvé cette solution et qu'il nous a envoyé en France, en 48 heures...
Vous êtes partis comment ?
On est partis sur la camionnette. On avait un pick-up à l'époque et mon frère et moi, on était derrière, ma mère devant. Et nous, on regardait cette ville morte, en fait. Parce que le Burundi, surtout Bujumbura, à l'époque où on l'a quitté, c'était une ville qui vivait le couvre-feu. On avait arrêté l'école, on était en plein mois blanc, c'est-à-dire il n'y avait pas d'école. Moi, les choses se sont... Je vais vous décrire peut-être la situation. En fait, on était en pleine classe quand, à côté de l'école française, pour dissuader les Français, en tout cas pour les alerter, pour qu'ils dégagent finalement du pays, ils ont balancé des bombes, des grenades. C'est une forme de menace, quoi. Et moi, je me souviens que là, il y a eu une évacuation de l'école française. La chance que j'avais, c'est que j'habitais à côté de l'école. Donc, c'est le gardien de mes parents qui est venu nous chercher avec notre chien à l'école, avec mon petit frère. Et du coup, on est rentré à la maison. Et là, à partir de là, il n'y avait plus rien à faire. Il fallait rester à la maison, cloîtré. La seule préoccupation de mes parents, c'était savoir s'ils allaient nous nourrir tous les jours, parce que tout était fermé, en fait. Donc moi, je me souviens que c'était le riz cassé, vous savez, le fameux riz du chien, finalement, qu'on mangeait tous les jours. Il n'y avait pas de viande. Notre petite friandise, c'était le, vous savez, le lait sucré, là, Nestlé, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc, là, le lait qu'on donnait aux militaires, d'ailleurs. Le lait concentré. Et puis voilà, enfin, je décris ma vie comme ça, c'est-à-dire dans un confinement. Voilà, confinement.
Avant l'heure.
Avant l'heure, mais un confinement où il y avait un danger à l'extérieur.
Plus palpable.
Plus palpable, oui, exactement. Avec un visage. Mais.
Et quand vous partez sur le pick-up
En fait, le plus dur, je vais vous dire avant le pick-up, le plus dur, c'est que nous, on se retrouvait, tous les copains, on se retrouvait sur le mur de notre école, quand on pouvait sortir dans les après-midi, pour dire adieu à nos copains. Ça, c'était le plus dur, parce qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde est connecté, on sait qu'on peut retrouver ses copains, même s'ils vont à 8000 km de la maison. Mais nous, à l'époque, on savait pas où on allait atterrir, chacun. Donc, il y en a certains qui rejoignaient le Canada, d'autres la France, la Belgique. Moi, je savais que j'allais rentrer en France, mais je ne savais pas si je garderais un lien avec mes amis. Ce qui est dingue, c'est que j'ai retrouvé la plupart de mes copains grâce à Miss France. Parce qu'en devenant Miss France, je devenais un personnage public, donc il y a un lien.
Et donc c'était possible de vous retrouver.
Mais oui.
Ah, c'est fou. On va en parler de Miss France.
Parce que pour le coup,
en termes de voyage, il se passe quelque chose quand vous êtes Miss France, Sonia Roland.
Mais c'est vrai que dire adieu à ses amis à un âge si jeune, c'est pas évident. Enfin, ça a forcément des dommages collatéraux à un moment.
Toujours aujourd'hui ?
Oui, bien sûr.
Dans la confiance, par exemple ?
La question de l'attachement, surtout. On a du mal à s'attacher parce qu'on a peur de s'attacher, parce qu'on a peur que ça s'arrête. C'est comme une petite mort, en fait. Dans l'évocation de la mort, chez moi, c'est le lien qui se brise. Voilà, c'est très bizarre.
Vous êtes retournée dans ces endroits, les maisons, par exemple, dans lesquelles vous avez habité ?
Ah oui, très très souvent. J'ai d'ailleurs beaucoup de plaisir à amener mes amis quand je voyage avec des amis là-bas, à montrer où j'ai grandi, quelle école j'ai fréquenté. Je retrouve tout. Je fais le parcours dans ma tête, je retrouve tout.
Sonia Roland, c'est vous qui êtes l'invitée de Chacun sa route et c'est vous qui nous emmenez jusqu'à 15h. Celui qui nous fait voyager aussi loin, tout de suite, c'est Jean-Louis Aubert. Extrait de son dernier album, Refuge, sorti l'automne dernier. Aussi loin, vous êtes sur France Inter.
Aussi loin que voit ton cœur, et aussi près que soit le mien, aussi vrai qu'on est âme sœur sur le tarmac des vauriens, aussi fort que soit l'amour sur ces chemins aller-retour, aussi faible que soit la force. Viens le printemps de la douceur.
viens sans détour, car tu me plais. Mon amour, viens comme je vais. Tu es mon point de non-retour.
Tous les jours, un peu après 14h30, vous nous racontez un voyage à vous, un moment. Une relation à distance, par exemple, un aéroport, un train qui vous a marqué. C'est pas forcément un ailleurs très loin, mais c'est votre parenthèse à vous. Racontez-nous, le répondeur de France Inter, 01 56 40 68 68, mon mail, elodie.fond@radiofrance.com. Et aujourd'hui, c'est un témoignage qui va vous parler, Sonia Roland, celui du photographe Joël Hardy.
Je suis arrivé en France le 12 décembre 88, à l'âge de 2 ans, et c'est mon point de départ. Mais réellement, mon point de départ, il n'est pas là. Je suis né aux Philippines, à Manille. Et de ma naissance à mes 18 mois, j'étais à l'orphelinat. Voilà. Et pendant toute cette période, il y a eu des recherches pour savoir qui étaient mes parents, pourquoi j'avais été mis à l'orphelinat à l'époque. Et aucune réponse. Donc voilà, 2018, c'est décidé, on part aux Philippines. La raison de ce voyage, c'est de réellement découvrir mon vrai point de départ et de retrouver l'orphelinat. L'orphelinat où j'étais, j'avais des photos, j'avais des adresses. On a atterri le 15 avril 2018. Et grosse surprise pour moi, parce qu'une fois arrivé à l'aéroport, j'ai regardé mon ami Noël et je fermais les yeux, je lui ai dit « je reconnais cette odeur ». Voilà. Je sais que je suis chez moi. L'odeur de la terre, de l'humidité, des petits transports, les petites mobilettes, ça me rappelle quelque chose, mon enfance. Ça, c'est drôle. Et surprise, une fois arrivé sur place, à l'orphelinat, les locaux n'avaient pas changé. La décoration, c'était à peu près la même. Les lits, ils n'ont jamais trop bougé. Quand je voyais les petits enfants qui jouaient dans la pièce, je me dis ça fait bizarre de se dire que c'était moi il y a 30 ans. Et là, on a rencontré une femme qui s'appelle Maria, qui a 85 ans. On a discuté, on a relié à peu près les dates. Elle a dû me connaître en 86, à ma naissance. Et pour elle, c'était une grosse surprise de voir un Philippin de visage, mais de passeport européen, débarquer avec une petite Française et lui poser plein de questions. Et je lui ai montré mon dossier d'adoption. Et là, elle a reconnu un peu les lieux. Et surtout, elle a reconnu une personne. Sur la photo, il y avait une femme. Et cette femme-là, c'était Madame Falcon, qui a été pour moi ma première famille d'accueil. Voilà. Et elle s'est dit, j'ai reconnu. On va essayer d'organiser un rendez-vous. Donc je me représente à l'accueil avec le grand sourire. Et donc on attend dans la salle. Et là, à côté de nous, il y a un couple qui attend aussi. Donc on ne prête pas attention. Et Noël me dit, c'est peut-être eux, la famille Falcon. Donc je regarde avec la photo que j'avais sur mon téléphone. Je regardais au-dessus de l'épaule de Noël. J'y allais, on est à l'autre bout de la planète. C'est pas maintenant qu'il faut hésiter. Donc je me retourne. Et je lui dis, je me présente et je lui demande tout penaud, tout gentil, tout timide, si c'était elle, Zenaïda. Elle me regarde avec un grand sourire, les yeux tout brillants. Elle me fait un grand sourire, elle me fait oui. Et là, elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a prise dans ses bras et je me suis senti vraiment ému par la scène. Son mari m'a regardé, très humble, d'un air « merci, merci d'être venu nous voir, Joël ». Et là, c'était un des moments, les moments les plus magnifiques de ma vie. De se retrouver face à face à des personnes qui t'ont rendu un service un jour dans une vie, dans leur vie, et de les remercier en revenant les revoir, c'est unique. Et peut-être que j'étais parti aux Philippines pour vivre cet instant.
Hyper beau, hein ?
Oui, quand on sait d'où on vient, on sait où on va. C'est assez... c'est une phrase qui me poursuit depuis que je suis toute petite, en fait. Et c'est bien. C'est bien parce que finalement, avec ce voyage, je pense qu'il fait la paix avec beaucoup de choses, hein, avec lui-même d'ailleurs. C'est magnifique.
Sonia Roland est notre invitée dans Chacun sa route jusqu'à 15h sur France Inter. On en était il y a quelques minutes au pick-up qui vous faisait quitter le Burundi,
oui, le Burundi.
En 1994. Vous avez des souvenirs du voyage? C'est un peu bizarre d'appeler ça un voyage d'ailleurs parce que...
C'est un voyage.
Mais c'est un voyage aussi. Mmh. Mais le mot est tellement positif parfois, le voyage.
Mmh, c'est vrai.
Est-ce que vous avez des souvenirs de ce déplacement?
Ouais, ce grand départ. En fait, c'est des souvenirs qui reviennent aujourd'hui, mais que je me suis interdite de. C'est comme si j'avais pas envie de les voir pendant des années, parce que ça me ramenait des douleurs vraiment, mais profondes, quoi. Parce que ce déchirement, le fait de dire au revoir à mon père aussi sans savoir s'il allait revenir, parce que papa était resté là-bas pour essayer de sauver finalement tous ses biens, son imprimerie. Puis finalement, il est revenu en France un an après avoir tout perdu, recommencer tout de zéro en France après 60 ans. C'est pas évident. Et du coup, oui, il y avait ce déchirement, mais il y avait aussi une forme de soulagement quand même, parce qu'on sentait comme, enfin moi je sentais vraiment dans le regard de ma mère tous les jours que le danger était là, quoi, imminent, pas loin, qui rôdait. Et c'est vrai que c'était un soulagement pour elle surtout, parce que finalement nous on n'a pas réellement conscience de ce qui se passe. On prend conscience qu'à travers le regard des parents.
Voilà. Et vous arrivez donc une nouvelle fois en Bourgogne. On parle dans cette émission, on en a parlé plusieurs fois, de voyage transclasse. Là, pour le coup, vous voyagez à travers les classes sociales, puisque vous aviez un bon niveau de vie
oui, oui.
Au Rwanda, ouais. Puis au Burundi. Là, quand vous arrivez, votre adolescence, vous vivez dans un HLM, dans un confort très modeste
ouais.
Et puis... La vie va faire que vous allez de nouveau vivre dans un confort, un confort assez incroyable, même ouais. extraordinaire. Quand vous vous êtes retrouvée dans les palaces à la suite de votre élection comme Miss France, qu'est-ce que vous a fait ce voyage-là?
Bon, déjà, il faut dire que. La multiplicité d'improbabilités qui ont mené à ce que je devienne Miss France sont tellement hallucinantes. Voilà, il faudra forcément en parler
oui.
parce que c'est je suis pas arrivée là par hasard en fait. J'ai été aussi portée disons par un entourage issu de mon milieu populaire à l'époque, et du coup je devenais un peu la Miss de mon quartier, quoi, et qui devenait Miss Bourgogne et ensuite Miss France. Donc toutes ces improbabilités là il faudra quand même qu'on en parle, hein, parce que c'est une époque.
On en parle juste après.
Ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Déjà c'est un grand saut dans le vide, dans l'inconnu. Là en fait tout s'offre à moi, mais en même temps c'est comme si le champ des possibles s'ouvrait à moi, quoi. Là, je me dis, tu as ce titre, tu touches peut-être du bout des doigts tes rêves de devenir comédienne, d'accéder à un milieu qui te paraît totalement inaccessible pour des tas de raisons, parce que je suis issue d'un milieu modeste, parce que je suis métisse, donc noire pour la grande majorité des gens. Donc du coup, je me dis, c'est l'improbabilité de devenir comédienne était tellement forte avant de devenir Miss France que maintenant, tu peux commencer à rêver. Et tu peux même commencer à visualiser tes rêves. Donc, il va falloir te donner les moyens. Moi, je savais, à partir du moment où on m'a mis la couronne sur la tête, que je n'avais pas le droit de flancher. C'est-à-dire que tout ce qui allait m'arriver, il fallait que je puisse le transformer.
Oui, mais j'ai lu que c'était en même temps un poids, ça.
Ah, c'était un poids phénoménal. Mais oui, parce que ma réalité change, mais celle de mes parents reste la même. Donc, tous les jours, il y a cette conscience qui me frappe. Je peux pas aborder les choses avec légèreté. Jamais. J'avais 18 ans en plus. Alors 18 ans, on a envie d'être comme tous les copains, sortir, aller en boîte, profiter finalement de tout ce qui m'arrive. Mais moi, finalement, j'en profite aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire bien après, 20 ans
20
après.
Ans. 20 ans,
ouais,
c'était 20 en 2000.
Ans. C'est mon année aujourd'hui.
Bon anniversaire.
Et donc, merci beaucoup. Et donc, j'en profite aujourd'hui. Je me dis juste... kiffe, quoi. Il faut kiffer. Parce qu'à l'époque, j'avais pas le temps de ça. Non, c'était trop précieux ce qui m'arrivait. Je me dis, non, Sonia, chaque minute est précieuse. Bois, observe, regarde ce qui se passe autour de toi. Ce n'est qu'un apprentissage de ce que tu vas devoir faire plus tard, en fait. Ce dans quoi tu vas être plongé plus tard. Parce que j'envisageais de le faire. Moi, j'avais un but.
Donc, le laisser aller, c'était pas exactement
l'ambiance. Ah non, le lâcher prise. Pas totalement, non. Le lâcher prise, je l'avais quand j'étais chez moi, quand j'étais avec ma famille. C'était très rare. Durant l'année de Miss France, on est quasiment que sur les routes avec des anonymes, des gens que vous connaissez pas, Madame de Fontenay, que moi j'adore. Hein. Je partage mon petit déjeuner une fois par an avec elle. D'ailleurs, il y a deux trois jours, et j'ai beaucoup de plaisir parce qu'à travers elle, je comprends aussi la complexité de la France. Je comprends ce qu'est la France finalement.
Et j'ai lu que, en fait, vous vous êtes présentée au concours de Miss France parce qu'un journaliste vous a vu jouer au basket.
Mais oui.
Et que à l'époque on vous surnommait Jordanette.
Oui.
Donc a priori vous étiez plutôt douée.
Oui, mais bon, je pensais que j'étais super douée. Surtout, c'est moi qui m'auto-proclamais Jordanette parce que j'étais tellement fan de Michael Jordan, mon Dieu.
J'adore l'esprit que ce soit vous, en fait.
Ouais, je m'étais auto-proclamée Jordanette, et donc les autres n'avaient pas le choix de m'appeler Jordanette. De toute façon, je faisais tout comme lui. J'essayais de faire les gestes, je tirais la langue quand il fallait tirer. Enfin, bon, bref, je faisais comme lui. Et puis, je portais ses baskets. Je me saignais chaque été. Enfin, je travaillais comme une cinglée pour pouvoir m'offrir la paire de Jordan. Vous n'imaginez même pas ce que c'est. Il y a une génération entière qui a fait la même chose que moi.
Et du coup, c'est vrai, c'est un journaliste qui vous a vu et qui s'est dit, mais postulez.
Oui, il a changé ma vie, ce monsieur. En fait, il est arrivé sur le terrain, j'étais en plein match, donc concentré sur mon match, et il me dit, est-ce que vous avez déjà pensé à vous présenter à la présélection de Miss France? De Miss Bourgogne, pardon. Je dis présélection de Miss Bourgogne, je sais même pas de quoi il me parle. Et je lui dis, bon alors soit vous êtes daltonien parce que je vois pas en quoi je représente la Bourgogne, soit, parce que j'avais quand même un bagout de dingue à l'époque, et soit je lui dis, soit vous êtes vraiment bigleux parce que je vois pas en quoi je représente la féminité. Et du coup, je l'ai un peu envoyé paître, et puis finalement, il s'est quand même accroché. Mes coéquipières ont, je sais pas, pris sa carte, ou je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, mon père a eu un lien avec ce monsieur. Et papa, un jour, avec sa voisine, là, Michel et toutes les autres, me regardait comme ça, et il me disait, tourne, regarde-moi. Ouais, elle pourrait faire Miss, mais il va falloir vraiment, il y a du travail, hein, parce que c'est vrai que j'avais vraiment boulot. Et en fait, j'ai vu à travers le regard de mon père qui avait tout perdu, qui avait perdu toute foi en un avenir serein, paisible, pérenne, une lumière. Et cette lumière qui me manquait depuis le Rwanda, depuis le Burundi, je l'ai vue à ce moment-là et je me suis dit, ok, c'est ma mission, ça.
Et cette lumière que vous avez aussi transmise, peut-être, sans vous en rendre compte, je voulais vous faire écouter un petit témoignage de quelqu'un qui me racontait un voyage et à qui j'ai appris que vous étiez aujourd'hui notre invitée.
Très chère Sonia Roland, je m'appelle Camille, j'ai 30 ans. J'ai grandi à Dijon, en Bourgogne, donc pas très très loin de là où vous avez grandi. Je suis métisse, j'ai un père sénégalais, une mère française, et quand j'étais petite, je pense que la seule personne à laquelle je pouvais m'identifier à la télévision, c'était vous. Alors à chaque fois que je voyais apparaître, que ce soit en tant que Miss France ou par la suite, j'avais les yeux qui brillaient, quoi. C'était Miss Bourgogne, c'était là où j'étais, c'était potentiellement possible. Et donc merci Sonia Roland.
Oh, c'est mignon. Bah moi aussi j'ai les yeux qui brillent maintenant. Oh là là, ils vont essayer de me tirer les larmes. Non mais en tout cas merci pour ce joli témoignage et puis je suis très heureuse si à un moment, à un endroit, j'ai pu inspirer quelqu'un. Ça veut dire que j'ai bien fait les choses finalement. Et tant mieux, mais chacun trouve de toute façon sa voie à un moment ou un autre, il faut juste croire en soi. Moi j'ai cru en moi à un moment et puis puis je me suis donné les moyens après.
Ouais, et puis ça donne du sens aussi aux choses qui là vous arrivent à vous et qui sont effectivement totalement...
On transcende en fait, oui.
Extraordinaire et derrière effectivement et plein d'autres vies qui en font quelque chose aussi. Sonia Roland, vous restez avec nous. On part en Californie avec le rappeur Sœur en collaboration avec Boogie, rappeur Weed sur France Inter.
Clear skies, white walls, sunset in my review as the night falls. Listening to old Kanye, feeling like new Kanye. My life in harmony like 2 1-yeahs. Okay, I shouldn't have to tell you that I've been here. This is not a gimmick, please don't push me to my limit. I'll be getting tired of being friendly.
go hard until my tank is empty. I'm not really in the competition, no. Hating me won't ever get you mentioned, no. I stay in my lane, oh, I stay in my lane. I've been driving me to rain, but my view never changed. Lil' mama flies a plane, she got that G5. Here, thoughts of me dropping a top, gon' make me handle the wheel. I'll even smoke in his skill, she bout to roll up again. But we ain't even getting high no more. We ain't even getting high no more. Now we ain't even getting high no more. Now we ain't even getting high no more. Now we ain't even getting high no more.
Oh man, shit. She keep on asking me why that blunt still ain't went out, You lose your patience, say fuck it, just put that shit out. And lately we both ain't been out, been hiding up in our consciousness. Try to tell me be moderate, shit, we boosting our tolerance, Let's smoke the papers that read our fate till we know the pages, Let's know the matrix that hide the truth, we not interfacing. Running through your days with no steady pacing. Feel you racing to your own demise, we ain't finna make it, I keep on saying, I call, you call, both calls get missed, Won't call you back, I text you piss, I keep the roach, I smoke the tips, I hurt my thumb, I burn my lips and shit. I need the smoke to be straight, I gotta get me some bands. I cop the eighth like every day, borrow that shit from my man. Till I forgot to go pay, he told me never again. Now I ain't even getting high no more.
Lil' mama flies a plane, she got that G5. Feel thoughts of me dropping a top, gon' make me handle the wheel. I'll even smoke in his skill, she bout to roll up again. But we ain't even getting high. We ain't even getting high no more. Now we ain't even getting high no more. Now we ain't even getting high no more. Now we ain't even getting high no more.
Sonia Roland, vous, qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui d'explorer?
Oh, déjà moi, c'est déjà pas simple. Non, en fait, pour être très honnête, je suis très curieuse, très voyageuse. J'ai été voyageuse parce que j'avais l'impression que tout, comme le champ des possibles, mais le monde aussi s'ouvrait à moi. J'ai beaucoup voyagé grâce à Miss France, mais j'ai aussi beaucoup voyagé par les films. Mon tout premier film avec Radu Mihailanu en tant qu'actrice, je l'ai fait au Cameroun. Donc je revenais sur les terres africaines et ça avait un symbole fort. Et du coup, je me suis donné cette ligne de conduite de voyager au moins une fois ou deux fois par an. Et puis voilà. Mais le voyage, c'est surtout... Je pense qu'on a beau voyager dans tous les pays du monde, le plus beau voyage, c'est celui dans son intérieur, dans son...
De se connaître.
Le voyage avec soi-même, en fait.
Et qui se passe, enfin qui passe aussi par le fait de bouger, vous trouvez ? Est-ce que vous, dans votre parcours, le fait d'avoir bougé autant, ça, ça dit quelque chose aujourd'hui de votre personnalité ?
Ça ouvre l'esprit, ça ouvre la curiosité, ça développe aussi son libre arbitre finalement, parce que vous piochez des informations un peu partout dans le monde et vous vous dites, ben finalement, c'est pas binaire, il va falloir toujours constamment remettre le curseur au bon endroit, quoi, dans la réflexion, et surtout ça permet le développement d'une réflexion, de pas s'arrêter à une lecture simple et facile des faits, de l'actualité, de ce qui nous entoure et de ce monde qui bouge constamment, quoi. Donc non, voyager, ça permet surtout l'ouverture, quoi.
Vraiment. C'est marrant parce que moi je pensais après avoir été Miss France, vous avez par exemple fait un tour du monde. Mmh. Et moi, je pensais qu'à votre place, vous auriez eu envie de vous reposer de temps de voyage. Et non, pour le coup, vous avez continué. Mmh. Là, en l'occurrence, vous vous apprêtez à partir pour 4 mois de tournage.
C'est vrai.
Pour la série.
Et pourtant, je suis fatiguée de voyager.
C'est vrai ?
Ouais, je suis fatiguée de voyager. J'ai envie de me poser maintenant. J'ai envie d'écrire tout ce que j'ai vu. J'ai envie de passer plus de temps sur des pages blanches. Bizarrement, c'est. Je crois que j'ai absorbé beaucoup, beaucoup d'informations, en fait. Maintenant, si je voyage, c'est parce que là, je vais en tournage d'une série qui s'appelle Tropique Criminelle pour France 2. Et j'ai un plaisir surtout à repartir dans le jeu, justement, le voyage à travers un personnage. Et toute l'introspection qu'on doit faire. Mais en même temps, j'ai de plus en plus envie de me poser. Et bizarrement, par exemple, le confinement, pour moi, n'a pas été... quelque chose de douloureux parce que j'ai beaucoup relativisé. Moi, j'ai vécu l'exil et j'ai vécu un confinement différent un petit peu avant l'exil. Mais là, ça a été l'occasion de mettre un frein à cette espèce de rythme effréné, une course pour je ne sais quoi. Et moi, j'ai besoin de me poser, d'écrire et de sortir en fait toute l'observation que je me suis faite depuis 20 ans du monde qui m'entoure en fait.
Voilà. Sortir un peu du trop-plein.
Exactement.
Sonia Roland, toutes les semaines, nous faisons le portrait d'une exploratrice à la fin de cette émission Chacun sa route. Laissez-moi commencer à vous raconter, ce lundi, la vie d'Anita Conti. Cette semaine, nous allons plonger dans l'univers d'une pionnière de l'océanographie, une physicienne, une cinéaste, une écrivaine, une autodidacte, Anita Conti, retenez son nom. Anita Conti naît dans l'Oise en 1899, dans une famille fortunée. Son père est un chirurgien réputé, un Arménien originaire de Constantinople, qui a francisé son nom de famille en arrivant en France, de Karakotchian à Karakotch. Des parents qui ont le goût de la nature, des voyages, des livres et du risque. Âgée de quelques mois seulement, Anita est jetée à la mer. Oui, vous avez bien compris, alors qu'elle est sortie de l'utérus de sa mère il y a presque 9 mois, ses parents la jettent à l'eau. Sous elle, 30 mètres de fond. Ils ne veulent pas la tuer, rassurez-vous, c'est plutôt une sorte de baptême un peu particulier et à ne pas forcément reproduire chez vous. « J'ai barboté », raconte-t-elle. « Que vouliez-vous que je fasse ? J'ai su nager avant de savoir marcher. » L'océan, justement, sera l'un des grands compagnons de sa vie. Ses parents s'aiment, mais s'agacent vite. Et quand le ton monte, sa mère trouve la parade. « Ne trouvez-vous pas que les enfants ont mauvaise mine ?» Et voici comment Anita, dans le sillon de sa mère, se retrouve très régulièrement en Bretagne ou sur l'île d'Oléron, et elle apprend en regardant comment travaillent les pêcheurs. Elle aime le large, le mouvement, le fluide, les vagues. À bord des bateaux, elle s'acquitte des tâches de jeune mousse. Bientôt, quand Anita Conti a 11 ans, ils partent sillonner la Grèce, la Turquie, la mer Noire, l'Arménie. L'idée de mes parents n'était pas d'élever un singe savant. Ils m'ont simplement enseigné 2 règles de vie. D'abord, on ne grogne pas. Ensuite, en société, on n'a ni chaud, ni faim, ni froid. Quelques temps plus tard, à l'adolescence, elle prend ses premières photos. Et s'ouvre aussi, à cet âge-là, à une drôle de parenthèse. Elle se met à couvrir un livre de classe avec son équipement d'équitation et, très rapidement, invente de nouvelles formes de reliure. Elle travaille le cuir, le teinte, le sculpte et devient, en quelques années, une sommité de la discipline, la reliure d'art, sous le nom d'Anita Cara, primée dans plusieurs villes d'Europe. Ce qui dénote déjà d'un certain talent pour la création. Mais ce qui compte vraiment pour elle, c'est la mer. Partir. Son appareil photo en bandoulière, sur les chalutiers, raconter le quotidien du métier de pêcheur dans les journaux de l'époque. Sentir son corps être parcouru par la houle. À l'époque, les femmes n'ont pas encore le droit de vote, encore moins celui d'ouvrir un compte en banque. Et pourtant elles s'imposent dans ce milieu si masculin. Petit à petit, ses articles lui donnent une petite notoriété dans le milieu de la mer, et elle est repérée par le responsable de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, qui décide de l'embaucher. Riche idée, puisque les publications d'Anita Conti pour la préservation des espèces marines vont faire sensation. Je vous raconte la suite demain. Sonia Roland, on termine toujours cette émission avec une question. Chacun sa route, chacun son chemin. Quel message vous voulez passer à votre voisin?
de garder cette curiosité, cet esprit libre, en fait. Il n'y a que ça qui nous sauve, hein, finalement, d'être libre. C'est, pour moi, en tout cas, c'est ça le vrai bonheur, la liberté. Après, chacun vit son expérience de vie comme il l'entend, hein. Mais je pense que le meilleur conseil que j'ai à donner à mon voisin, c'est de vivre, tout simplement. C'est vrai.
Merci beaucoup, Sonia Roland.
Merci à vous.
Chacun sa route, épisode 36. Revenez demain. Demain, nous serons avec l'auteur Abdelataya et nous parlerons exploration sonore avec l'artiste Félix Blum. Merci à Céline Dubois, Louise Cognard, Thomas Omaro qui ont préparé cette émission et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. C'est avec vous, auditeurs, que l'on se quitte. Un souvenir musical lié au voyage. Faites comme Myriam aujourd'hui.
Alors, ma chanson, c'est Rebelle Rebelle, David Bowie. C'était à la fin des années 90. Il enregistrait quelques titres pour une émission. C'était pas évident de pouvoir assister à l'émission, mais j'avais la chance d'avoir une copine qui travaillait avec la prod et qui m'a permis d'y aller. Et là, je me suis retrouvée à 5 mètres de David Bowie qui chantait Rebelle Rebelle, absolument radieux. Je me souviens encore qu'il portait une chemise rose en soie et il était absolument magnifique.